Bienvenue dans le Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, les blockchains et les plateformes décentralisées. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 du Proof of Cast, le podcast francophone qui vous explique, qui vous raconte et qui vous démystifie les crypto-monnaies, la blockchain et les plateformes décentralisées. C'est Sébastien Arbogast qui vous parle et aujourd'hui je suis tout seul. Et oui, mes acolytes et notamment Ploum ne sera pas là cette semaine pour vous offrir son désormais comique et mondialement reconnu édito. Et cette semaine nous n'avons pas non plus de courrier des auditeurs, j'ai pas reçu de questions sur le blog de Proof of Cast et de Chain Skills, donc je vous invite, comme toujours, à laisser vos questions et vos commentaires sur ce blog. Ça nous permet aussi de mieux comprendre ce que vous avez besoin de comprendre, justement, et donc de mieux vous expliquer les choses, puisque ça fait partie des missions de ce podcast. Alors, cette semaine, il y a une actualité assez riche que nous allons entamer dès maintenant, et on va commencer par parler du crypto-rouble. Alors si certains ont suivi l'actualité, ça fait un peu partie de la série des fantasmes sur les crypto-monnaies. Un certain nombre de pays ont proposé, notamment ces derniers mois, de lancer leur propre crypto-monnaie d'État. Et c'était notamment le cas de la Russie et de son Vladimir Poutine national, qui en fin d'année dernière avait même reçu Vitalik Buterin, qui, je le rappelle, est l'inventeur d'Ethereum, une des principales blockchains, une des principales crypto-monnaies en existence. Et d'ailleurs, certains hauts fonctionnaires russes, comme notamment le ministre de la Communication et des Médias de Masse, encore une fois, rôle assez intéressant à connaître, ou la gouverneure déléguée de la Banque Centrale Russe, avaient déjà émis l'hypothèse de la création d'un crypto-rouble. Évidemment, l'intérêt pour eux, c'était essentiellement de se dégager de l'influence et de la dépendance vis-à-vis de la finance internationale, enfin du système financier classique, donc de gagner en indépendance. Or, cette semaine, dans une interview publique, Vladimir Poutine a confirmé qu'il n'y aurait pas de crypto-rouble. Il a notamment précisé que ça ne faisait de sens ni pour la Russie, ni pour aucun autre pays d'ailleurs, d'avoir une crypto-monnaie d'État. Et il a raison, puisque par définition, une crypto-monnaie, ça s'affranchit totalement des frontières d'un État. Donc il était temps qu'ils le comprennent. Je pense que c'est intéressant qu'ils aient fait une démarche de recherche et d'information sur le sujet, mais bon, force est de constater qu'ils en sont venus à la bonne conclusion, c'est que ça ne fait aucun sens. Maintenant, après, la suite de l'interview, forcément, a basculé, puisque toujours dans la logique du « si t'es pas avec nous, t'es contre nous », il a continué en disant que, puisque la Banque Centrale Russe croyait que les crypto-monnaies ne pouvaient pas être considérées comme un moyen de paiement ou d'épargne, elles étaient sécurisées par rien. Évidemment, puisque vous écoutez ce podcast déjà depuis 6 épisodes au moins, vous savez que ça c'est complètement faux et que c'est une posture finalement des États de dénigrer la valeur des crypto-monnaies en considérant qu'elles ne sont sécurisées sur rien, contrairement évidemment aux monnaies d'État qui elles sont seraient sécurisées de manière très sûre et très solide. Encore une fois, c'est de bonne guerre. Ces argumentaires-là, ils sont pas nouveaux et on continuera à les voir pendant encore longtemps. Et ça vient évidemment du fait qu'un État, et surtout un État comme la Russie, c'est centralisé par définition, c'est contrôlé, c'est verrouillé, c'est orchestré par un très petit groupe de personnes qui ont tout intérêt à conserver leur pouvoir. Alors que la philosophie de la crypto-monnaie, c'est de rendre le pouvoir à ses utilisateurs, à la marge. Et bien sûr, les crypto-monnaies continueront à alimenter les fantasmes des gouvernements de pays avec des velléités d'indépendance, hein, vis-à-vis de la finance internationale, ce qui est le cas de la Russie, ça a été le cas aussi du Venezuela, qui continue d'ailleurs avec son expérimentation de son côté. Et évidemment, ces expériences-là continueront jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que cette indépendance se fait aussi vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de ces gouvernements. Et là, tout de suite, ils seront moins enchantés. Évidemment, tout ça va dans le même sens que tous les débats récents qu'il y a eu au G20 ou à l'Union européenne. Et pour moi, ça rentre dans une philosophie, dans un phénomène qu'on a pu constater dans l'histoire à chaque fois qu'il y avait un changement de paradigme technologique. C'est-à-dire qu'on assiste grossièrement à un processus de deuil. On a commencé par le choc, Hein, dans le cas des crypto-monnaies, ça a été le Bitcoin. Ensuite, on a passé à l'étape du déni. Pendant quelques années, toutes les institutions, qu'elles soient étatiques ou privées, ont dénigré complètement l'existence même des crypto-monnaies, les ont rangées au rang de monnaies Internet qui servaient juste à acheter de la drogue et des armes. Et maintenant, on est rentré dans l'étape de la négociation, du marchandage. C'est-à-dire qu'on essaye de faire comme on a toujours fait, mais avec de la blockchain dedans, et on s'accroche désespérément à l'ancien système. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore 4 étapes dans le deuil après ça, la tristesse, la résignation, l'acceptation, la reconstruction. Et franchement, c'est difficile à ce stade de prédire quelle forme ces étapes vont prendre, ce deuil va prendre à l'avenir, mais en tout cas, c'est intéressant à suivre et à analyser de l'extérieur. Et d'ailleurs, comme le dit très justement l'article dans Het News, qui comme d'habitude sera relié dans le blog post associé à cet épisode. Méfiez-vous des effets d'annonce et des communiqués de presse. C'est sur les actes qu'il vaut mieux juger ces évolutions et voir comment ça va se dérouler concrètement, finalement. Parce que les annonces, c'est assez simple à faire et en général, ça fait vendre du papier. Donc, méfiez-vous de tout ça. Et puisqu'on parle d'effets d'annonce et de gouvernements nationaux, on est dans le sujet. Parlons de l'Estonie. Donc c'est la deuxième news qui a attiré mon attention ces deux dernières semaines. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, en août 2017, l'Estonie avait annoncé vouloir créer un cryptoactif qu'elle avait appelé à cette occasion le EST Coin ou l'Est Coin si vous voulez. Évidemment, à l'époque, beaucoup d'organes de presse avaient repris un peu trop vite la nouvelle et avaient annoncé que l'Estonie voulait elle aussi créer sa propre crypto-monnaie d'État, comme la Russie, comme le Venezuela. Et comme tant d'autres avaient prétendu vouloir le faire. Ce qui est important de faire ici, et j'en profite pour faire un petit point éducation, c'est de différencier différents types d'actifs, justement. Parce que dans le monde de la crypto, comme dans tous les autres mondes, c'est important de ne pas tout mettre dans le même sac. Donc, l'actif le plus connu, on va dire, c'est la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est un instrument de valeur, c'est natif à une blockchain, c'est-à-dire qu'il est créé par cette blockchain selon une politique monétaire stricte et connue par tout le monde. Et elle est, bien sûr, elle peut être échangée par les utilisateurs de la blockchain, mais elle sert aussi de mécanisme de motivation pour inciter les acteurs, et notamment les mineurs, dans le cas des blockchains comme Bitcoin ou Ethereum, à sécuriser le réseau. Donc généralement, il n'y a qu'une seule crypto-monnaie dans un réseau blockchain donné et la création de cette crypto-monnaie nécessite de rassembler un grand nombre d'utilisateurs et de validateurs, donc de mineurs, pour être vraiment décentralisé et sécurisé. Donc ça complique évidemment la création d'une telle crypto-monnaie et ça ne se fait pas comme ça tous les matins. Même si dans les faits, ça se fait quand même assez rapidement, c'est relativement complexe et il n'y a pas énormément de grosses crypto-monnaies qui existent sur le marché. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les tokens. Alors ici, c'est un titre de valeur, son fonctionnement, il est orchestré par un smart contract et donc, en général, un token s'appuie sur une blockchain existante comme Ethereum ou encore Waves, par exemple. Sa création, elle est beaucoup plus simple, puisqu'encore une fois, elle ne nécessite pas de créer une blockchain de zéro. Elle peut s'appuyer sur une blockchain existante. Et sa génération ne nécessite aucun minage ni politique monétaire. En gros, c'est l'initiateur d'un token, donc celui qui déploie finalement le smart contract, qui décide combien de tokens seront mis en circulation au départ et à quel rythme de nouveaux tokens pourront être créés. Et que surtout, comment ils seront distribués. À noter que, comme les crypto-monnaies, les tokens dont on parle ici sont des tokens fongibles, c'est-à-dire que chaque unité a la même valeur qu'une autre unité. D'accord? Vous allez voir pourquoi cette différence est importante par la suite. Et alors, le standard le plus connu pour ces tokens, c'est ce qu'on appelle le standard ERC-20, on en a déjà parlé dans le Proof of Cast, c'est un standard qui est lié à Ethereum, et évidemment, c'est pas le seul, puisqu'il y a d'autres blockchains, je parlais tout à l'heure de Waves, il y a d'autres blockchains qui permettent de créer ce genre de tokens. Et c'est généralement de ce type de token-là dont on parle quand on parle d'ICO et donc de ces levées de fonds participatifs qui créent finalement des espèces d'actions. Ces actions sont des tokens, généralement ERC20 comme on l'a dit, donc c'est des tokens fongibles. Donc ça c'est le deuxième type. Il existe maintenant une troisième catégorie qui est un petit peu plus récente, c'est ce qu'on appelle les tokens non fongibles. Là, le standard Ethereum, c'est ERC721, si vous voulez placer ça dans les conversations mondaines. Et ces tokens sont également des titres créés et orchestrés par des smart contracts, comme les ERC20. Mais ici, chaque unité a sa propre valeur qui peut en plus évoluer intrinsèquement dans le temps. Donc imaginez un token qui représente par exemple un titre de propriété d'une maison ou d'une œuvre d'art ou encore un chaton numérique comme dans le cas des CryptoKitties, ce fameux jeu qui a défrayé la chronique sur Ethereum ces derniers mois. Donc comme vous le voyez, il existe différents instruments qui fonctionnent de manière complètement séparée, qui ont des cas d'usage bien spécifiques et des contraintes bien particulières aussi. Donc les ranger dans la même catégorie, ça amène à beaucoup de confusion et ça crée aussi pas mal de réactions épidermiques. Ici, ce qui s'est passé, c'est que quand l'Estonie avait annoncé son Estcoin, donc c'était en août 2017, elle aurait peut-être dû l'appeler Estoken du coup, parce que c'était pas un coin, c'était pas une crypto-monnaie en tout cas. Mais pour autant, beaucoup de journalistes se sont un petit peu emballés et ont rapporté cette information en disant ça y est, l'Estonie veut créer sa propre crypto-monnaie d'État au même titre que d'autres avaient prétendu vouloir le faire à la même époque. Donc évidemment, levée de bouclier du côté de pas mal de gens, y compris de la Banque Centrale Européenne, puisque rappelons-le, l'Estonie c'est un État de l'Union Européenne, de la zone euro, dont la monnaie officielle est donc l'euro. Évidemment, Mario Draghi, le président de la BCE à l'époque, avait répondu assez fermement aux annonces de Kaspar Korjus, qui est donc le directeur du programme estonien e-residency, Mario Draghi avait précisé « Aucun État membre ne peut introduire sa propre monnaie, la monnaie de la zone euro, c'est l'euro. » Voilà, prends ça dans ta gueule. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Déjà à l'époque, Kaspar Korjus avait précisé qu'il n'avait jamais parlé d'une monnaie nationale, mais uniquement d'un instrument d'investissement, donc d'un token. Mais pour autant, la confusion était installée et donc ça a créé beaucoup de désinformation autour de ça. L'objectif de base de l'Estcoin, tel qu'il a été décrit encore une fois dans les premiers posts d'annonce que j'ai pour le coup que j'ai relié de nouveau dans le blog post associé à cet épisode, c'était de permettre à tout un chacun d'investir dans l'économie estonienne, comme on peut déjà finalement investir dans des entreprises en achetant des actions, et donc éventuellement de toucher des plus-values quand l'économie estonienne se porte bien. Donc c'est un mécanisme qui est intéressant, qui est novateur certes, mais qui n'a absolument rien à voir avec une crypto-monnaie d'État. Et il était même question de permettre d'utiliser ces tokens pour payer certains services publics, et notamment les services liés à l'e-residency, au programme d'e-residency estonien. Je rappelle, c'est un programme qui permet de bénéficier de certains services publics estoniens sans être pour autant citoyen estonien. Petit disclaimer, je suis moi-même citoyen, enfin irrésident, pardon justement, je suis moi-même irrésident estonien et donc je pratique entre guillemets ce système de l'intérieur même si j'ai pas encore fait grand-chose avec. Donc il semble définitivement que la presse et les pouvoirs en place aient du mal à comprendre la distinction entre token et crypto-monnaie, etc. ou en tout cas entretiennent cette confusion il se fait que pendant un temps, en plus, qui n'a rien arrangé, il était question avec l'Estcoin d'indexer la valeur de l'Estcoin sur l'euro et d'en distribuer en plus à tous les Estoniens. Et là, évidemment, quand on commence à indexer une monnaie, un crypto-asset comme l'Estcoin, qui serait donc un token ici, sur la valeur d'une monnaie fiat qui elle-même est centralisée, enfin évidemment, ça perd tout le monde et ça rajoute de la confusion. Et donc, ce qui a été décidé cette semaine et annoncé très clairement et aussi explicitement que possible, c'est que on abandonnait cette idée de distribuer l'Estcoin à tous les citoyens estoniens et de l'indexer sur l'euro. L'indexation ne se fera pas sur l'euro, donc ce sera un actif complètement indépendant et il ne sera pas distribué non plus aux citoyens estoniens, mais il sera uniquement proposé aux irrésidents à titre d'une espèce de monnaie d'échange qui vont leur permettre de faire des transactions directement les uns avec les autres et donc d'encourager une certaine collaboration entre les irrésidents. Donc voilà, encore une fois, une clarification très importante. Ça m'étonne un petit peu d'un organe comme 8 News, qui est pourtant qui a l'habitude de ce genre de choses, et d'ailleurs je l'ai mis en commentaire sur leur post. Ils ont pourtant l'habitude de couvrir ce genre d'actualité, et donc ils devraient aider les gens à faire la part des choses. Pour autant, ils ont entretenu un petit peu la confusion là-dessus, mais encore une fois, j'ai mis en lien les annonces officielles depuis le début de cette histoire de Lastcoin, et si vous relisez ces annonces, vous verrez bien qu'à aucun moment il ne parle d'une crypto-monnaie d'État, mais encore une fois, c'est un petit peu le principe du téléphone arabe qui a joué derrière. Donc encore une fois, le deuil, même parmi les journalistes qui ont l'habitude de couvrir cet écosystème, c'est pas quelque chose d'évident. Donc j'espère que ça aura clarifié les choses pour vous. Encore une fois, comme d'habitude, s'il y a des choses qui sont pas claires dans ce qu'on explique dans ce podcast, je rappelle qu'une de nos principales missions, c'est d'éduquer la population et le grand public à toutes ces problématiques de décentralisation, de crypto-monnaie et de blockchain. Donc s'il y a quelque chose qui est pas clair, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog post associé à l'épisode, et aussi d'utiliser nos médias sociaux comme notre page Facebook, notre compte Twitter, notre Mastodon et d'autres moyens qui sont mis à votre disposition pour nous contacter. On sera ravis de répondre à vos questions et donc de couvrir aussi plus en détail ces éléments manquants dans les prochains épisodes. Et j'en profite pour passer au prochain sujet. On va parler d'Ethereum classique et de la preuve d'enjeu. Puisqu'on est dans la confusion et le mélange des genres, je pense que vous allez voir, c'est particulièrement pertinent. Donc, je rappelle les faits. Depuis le départ, la blockchain Ethereum fonctionne selon l'idée qu'elle démarre avec un algorithme de consensus, comme toutes les blockchains, mais ici qui est de type preuve de travail, ou proof of work, au même titre que Bitcoin, par exemple. Cet algorithme, il a certains problèmes qui sont connus, des problèmes de performance, des problèmes de coût énergétique, même si encore une fois, pour l'instant, c'est contrôlé. Il se pourrait qu'à l'avenir, ce soit particulièrement problématique. Et donc, il n'était pas question de conserver la preuve de travail, mais au contraire, de transitionner le réseau vers un autre type d'algorithme de consensus qu'on appelle la preuve d'enjeu ou proof of stake. Maintenant, ce nouvel algorithme, il devrait permettre à terme de se passer du minage, qui est coûteux en énergie, comme on l'a dit, et aussi d'augmenter la décentralisation et la capacité, c'est-à-dire la performance du réseau. Maintenant, il pose un certain nombre de challenges techniques qui nécessitent encore pas mal de recherche et développement, et c'est ça qui est en cours en ce moment. Maintenant, ils le savaient depuis le début, et pour anticiper cette migration, dans le code d'Ethereum, ils ont intégré quasiment depuis le début ce qu'on appelle une bombe de difficulté, c'est-à-dire un bout de code qui est conçu pour ralentir artificiellement le réseau au-delà d'un certain bloc connu de tous. Autrement dit, à un certain moment, à un instant T, la bombe pète et le réseau commence à ralentir de manière exponentielle. L'idée de cette bombe de difficulté, c'est d'inciter les utilisateurs du réseau à mettre à jour leur logiciel vers la version avec la preuve d'enjeu dès que celle-ci sera disponible. S'ils font pas ça, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout simplement être bloqués sur l'ancienne version du réseau qui va continuer à ralentir de manière exponentielle, irrémédiablement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'âge de glace, le Ice Age de la blockchain. Donc pour éviter l'Ice Age, ils vont être obligés de mettre à jour leur version. Alors la première bombe de difficulté, elle a déjà explosé à l'automne dernier, et l'idée c'était qu'à cette date, les développeurs pensaient que la preuve d'enjeu serait déjà prête. Évidemment, ce n'est pas le cas, ils avaient un petit peu sous-estimé la difficulté de la recherche autour de ça. Et donc, ce qui a été décidé par la communauté, c'est que, puisque le développement n'était encore pas prêt, n'était pas encore au point à cette époque-là, ils ont intégré dans le hard fork Byzantium, ils ont intégré la réinitialisation de cette bombe de difficulté. Alors, il y a eu d'autres changements, évidemment, dans ce hard fork, mais il y avait notamment cette remise à zéro du compteur pour donner plus de temps à la communauté pour mettre au point ce qu'on appelle donc Casper, qui est la preuve d'enjeu sur Ethereum. Et maintenant, la nouvelle bombe de difficulté telle qu'elle a été configurée sur Ethereum devrait exploser quelque part autour de la fin de l'année 2018, début d'année 2019. Et donc, à ce moment-là, soit on aura la preuve d'enjeu qui sera prête et qui sera mise en œuvre, et donc on pourra supprimer complètement la bombe de difficulté, soit il faudra à nouveau la réinitialiser pour nous redonner un petit peu de temps pour finaliser l'implémentation de la preuve d'enjeu. À côté de ça, ce qui s'est passé en juin 2016, c'est que suite à l'exploitation d'un bug sur le smart contract de l'organisation The DAO, pour ceux qui s'en souviennent, qui avait entraîné le siphonnage de 50 millions de dollars en Ether dans un compte à part, ça avait provoqué un split de la blockchain Ethereum, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain bloc, deux chaînes étaient nées à partir de la chaîne de la blockchain Ethereum du passé. Et ce split avait était occasionné par le fait d'une décision contentieuse, on va dire, puisqu'une majorité de la communauté avait décidé d'annuler les transactions frauduleuses, les transactions qui avaient exploité ce bug dans le smart contract, au prix de faire une entorse à la fameuse règle d'immutabilité de la blockchain à titre exceptionnel. Et une minorité de la communauté avait, elle, préféré conserver cette règle à tout prix et donc ne pas toucher aux transactions frauduleuses. Et c'est ça qui avait donné naissance à cette séparation. Et donc, d'une part, on est resté avec la majorité de la communauté sur la blockchain Ethereum, dont le symbole de la crypto-monnaie ETH, et d'autre part, à la création d'une autre blockchain qu'on appelle Ethereum classique, dont le symbole est ETC. Et donc, on a bien deux crypto-monnaies différentes, avec des cours différents et des base de code qui partage évidemment une base commune importante, mais qui maintenant évolue de manière indépendante. Pour rappel, aujourd'hui, l'ETC, donc l'Ethereum classique, est valorisé à environ 13 euros au moment où on enregistre cet épisode, c'est-à-dire le 8 juin, alors que l'ETH est lui valorisé à 507 euros. Donc on voit bien la différence de valeur qui existe déjà entre les deux. Or, ce qui se passe, c'est que depuis ce split, le code d'ETC avait conservé la bombe de difficulté en prévision d'une hypothétique implémentation du proof of stake. Donc cette bombe de difficulté, elle était déjà en place avant. En l'occurrence, eux n'ont pas fait forcément la migration à Byzantium, donc ils n'ont pas réinitialisé et ils ont gardé la même bombe de difficulté qui avait déjà pété sur Ethereum en automne 2017. Donc eux, ils étaient toujours avec cette bombe de difficulté qui commençait à sérieusement à ralentir leur réseau. Et donc, à l'occasion d'un hard fork le 29 mai, ils ont pris une décision importante, c'est qu'ils ont supprimé cette bombe de difficulté. Donc au lieu de la réinitialiser, ils l'ont tout bonnement supprimée. Ce qui, d'une part, va leur permettre de accélérer à nouveau la performance du réseau. Et d'autre part, signifie que d'une certaine manière, ils renoncent à l'implémentation de la preuve d'enjeu. Ce qui est assez logique au final, hein, puisqu'on voit que c'est déjà compliqué pour une communauté comme celle d'Ethereum principale, on va dire, avec tous les moyens et tous les esprits qui travaillent dessus, de mettre au point cette preuve d'enjeu. On voyait mal comment une petite communauté comme celle d'Ethereum classique pouvait arriver à faire mieux que ça. Et donc, voilà, ils ont fait le choix de renoncer à cette preuve d'enjeu, à ce proof of stake, et donc d'annuler complètement cette bombe de difficulté. Et donc ça s'est fait par un hard fork le 29 mai. Évidemment, comme vous pouvez vous en douter, de nombreux journalistes, y compris ceux de blogs qui se prétendent donner des conseils d'investissement, comme investing.com, que j'ai relié dans le blog, se prennent un petit peu les pieds dans le tapis et mélangent un peu tout, mélangent Ethereum et Ethereum classique, mélangent un petit peu tout ça, les plans des uns et des autres. Donc, pour clarifier, encore une fois, ETH conserve sa bombe de difficulté et espère toujours implémenter la preuve d'enjeu d'ici normalement la fin de cette année. Ou alors, à ce moment-là, ils repousseront de quelques temps pour en réinitialisant la bombe avec un nouveau hard fork. Et de son côté, la blockchain ETC, donc Ethereum classique, qui maintenant est indépendante d'ETH, et ce depuis juin 2016, vient d'implémenter donc ce hard fork qui supprime la bombe et qui renonce à la preuve d'enjeu. Je sais, tout ça, c'est pas très simple, c'est pas très facile à comprendre. J'espère qu'on clarifie un petit peu tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser des questions si ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, ces éléments sont très importants à comprendre pour bien choisir les crypto-monnaies et les technologies dans lesquelles on investit. En l'occurrence, on a pu observer pour l'instant que sur ETC, ce hard fork n'avait pas eu un impact majeur sur le cours, mais tout ça est évidemment à surveiller. Voilà pour cette news, voilà pour toute cette confusion et je l'espère pour ces clarifications qu'on peut apporter avec le Proof of Cast. Ce qui nous amène à la quatrième news de cet épisode, à savoir SAP. Vous allez me dire, mais que vient faire SAP dans ce monde de la blockchain ? Eh bien, il se trouve que cette semaine, SAP tenait son salon annuel, le Sapphire Now. Donc, c'est un petit peu la grand-messe de SAP. Je rappelle, SAP, c'est un système d'entreprise qui est utilisé notamment par les grandes entreprises pour gérer tout ce qui est facturation, paiement des salaires, fiches de paye et d'autres. C'est ce qu'on appelle un ERP, hein, Enterprise Je sais pas ce que ça veut dire ERP, honnêtement. Mais en tout cas, c'est un système voilà de gestion d'entreprise numérique, logiciel. Et évidemment, il y a toute une offre de conseils. Ils ont toute une offre de conseils et de services autour de ça. Et donc, à l'occasion de leur salon annuel, ils ont annoncé le blockchain, une offre de blockchain as a service qui s'appelle SAP Cloud Platform Blockchain. Si vous vous souvenez bien, dans les épisodes précédents, on avait déjà parlé des offres de Microsoft Azure, assez similaire, ou de Amazon Web Services qui avait lancé récemment un service assez identique. Ici, quand on lit un petit peu l'annonce de SAP, on se rend compte qu'il ne parle uniquement que de Hyperledger Fabric et de Multichain, qui est en fait une espèce de framework par-dessus d'interopérabilité entre blockchain, si j'ai bien compris, mais il n'est absolument pas question d'Ethereum. Donc ici, on parle bien uniquement de blockchain permissionné dans le cas de SAP. Donc, on ne parle pas ici vraiment de blockchain, en fait. Si vous avez déjà suivi ce qu'on a dit et ce qu'on a expliqué dans les précédents épisodes, ce n'est pas vraiment de la blockchain. Donc voilà, c'est tout pour cette info. Merci, au revoir, à la prochaine fois. Non, voilà, évidemment, vous l'aurez compris, je suis assez sceptique par rapport à ce genre d'annonce, mais je trouve important de les souligner parce qu'encore une fois, on a affaire à un nouveau poids lourd du conseil et du service aux entreprises qui se lance dans la course à ce que j'aime à appeler maintenant les fake chains. Évidemment, ils ne veulent pas être laissés pour compte dans cette manne que peut représenter le marché du blockchain washing, encore un autre terme que j'aime inventer. Trademark, copyright, Sébastien, tout ça. Et tout ça, l'objectif, c'est évidemment de vous vendre, enfin de vendre aux entreprises des milliers de jours hommes et des millions d'euros de licences logicielles à des entreprises qui ont peur de passer à côté de l'innovation. Et tout ça avec des technologies qui n'ont absolument aucun sens d'un point de vue architectural, je le rappelle. Et si vous avez besoin d'une preuve supplémentaire et d'une autre référence en la matière, je vous invite à aller jeter un œil à la vidéo YouTube de Vitalik Buterin qui est intervenu lors du salon d'économie 2018 et qui a fait une excellente présentation, une petite présentation de 20-25 minutes dans laquelle il rappelle le contexte dans lequel la blockchain fait sens et pourquoi. Laquelle elle a été conçue finalement, c'est malgré le fait que ce soit Vitalik Buterin, un homme tout à fait brillant, il arrive à expliquer les choses de manière assez claire, donc je vous invite à aller voir ça. Alors bien sûr c'est en anglais, mais vous allez voir c'est très intéressant pour mettre les choses dans leur contexte et remettre l'église au milieu du village. Le lien évidemment de cette vidéo est dans le blog. Donc je rappelle, si vous êtes décideur dans une entreprise qui travaille déjà avec SAP, préparez-vous aux prochains assauts de leurs représentants commerciaux, fourbissez vos arguments face à cette nouvelle vague de ce que j'appelle du golfware, et je rappelle, pour qu'une nouvelle technologie soit intéressante, il ne suffit pas qu'elle amène des bénéfices, il faut aussi que le rapport bénéfice-coût net soit positif, et même qu'il soit supérieur à n'importe quel autre effort d'optimisation technologique. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Il n'y a pas de business case, comme on dit. Donc, restez vigilants par rapport à ça et ne vous faites pas avoir par ces gens dont finalement le modèle économique est de vous vendre à la fois la maladie et le médicament qui va avec, c'est-à-dire la complexité excessive avec les consultants qui vont vous aider à vous en sortir. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule de cet épisode. Et on termine l'actualité avec Malte. Alors Malte est assez connue dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, puisqu'elle héberge déjà pas mal de plateformes d'échange, mais aussi des startups et des entreprises liées à cet écosystème, pour la bonne et simple raison qu'au-delà d'un environnement fiscal particulièrement avantageux, elle a aussi des règles en matière de crypto-monnaies qui sont assez souples et qui permettent de faire pas mal d'adaptations. Ici, il n'est pas question de crypto-monnaie à proprement parler, mais il est question d'éducation et notamment d'université et de diplôme, puisque le gouvernement maltais a lancé un programme expérimental dont l'objectif serait de mettre les diplômes de certaines de ces universités sur la blockchain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ça en partenariat avec la startup Learning Machine Technologies, qui, pour ceux qui avaient suivi, s'était déjà illustré avec sa technologie BlockCerts, qu'ils avaient mise en œuvre pour mettre sur la blockchain les diplômes du MIT, cette fameuse université américaine de technologie. Pour rappel, c'est aussi cette technologie BlockCerts, elle est aussi relativement similaire à une autre technologie qui s'appelle 0xCert et notamment la variante Academia. Et dans leur cas, ils espèrent pouvoir représenter les diplômes, enfin ils essayent de représenter les diplômes comme des certificats sous forme de tokens non fongibles, donc des ERC-721, on y revient à ce que j'évoquais avant. Et en fait, dans tous ces systèmes, il est question de représenter un diplôme comme un document numérique nominatif, donc qui identifie le diplômé en même temps que son diplôme et qui notarise ce document dans une blockchain publique. Le principal avantage de ce système, c'est de graver ce document dont la valeur doit être conservée à très long terme, donc potentiellement au-delà de la durée de vie de l'institution qui a délivré le diplôme, ou de ses archives papier ou numériques qui sont potentiellement fragiles puisqu'elles sont centralisées. Mais l'avantage, c'est aussi de faciliter la vérification du diplôme par des tiers, comme d'autres universités ou, bien sûr, des employeurs. Or, avec ce genre de système, comme je l'ai dit, on ne décentralise que le stockage même du diplôme. On conserve la centralisation de deux éléments clés qui sont d'une part l'identification du diplômé, donc son KYC en quelque sorte, qui reste à la charge de l'institution et qui reste donc soumise au risque de corruption ou d'erreur. Et on garde aussi la centralisation de l'évaluation même des compétences du diplômé. Donc, d'une certaine manière, on doit continuer à faire confiance à des institutions centralisées, donc des universités, etc., qui restent soumises à des risques de corruption, d'erreur, voire de contrôle d'État, etc., etc. Et c'est particulièrement vrai dans le cas de l'autre système 0xCert, donc ces fameux tokens ERC-721, puisque dans ce cas-là, les diplômes sont des tokens fongibles et donc ils sont conçus comme étant transférables. Donc à ce titre, il n'offre pas vraiment de protection contre l'usurpation d'identité. Donc pour moi, pour faire le lien aussi avec le deuil dont je parlais tout à l'heure, je range un petit peu ces initiatives dans l'étape de négociation, de compromis, de l'ancien avec le nouveau. On essaye de faire comme on a toujours fait, on fait des diplômes mais on met ça dans la blockchain et donc on fait un petit peu la moitié du chemin. Or, si on va jusqu'au bout de la démarche et qu'on y réfléchit un petit peu, l'identité d'un diplômé, est-ce que c'est vraiment important pour un employeur? Si cet employeur a la certitude que la personne avec laquelle il travaille est bien celle qui a acquis les compétences nécessaires pour l'accomplissement de sa mission, est-ce qu'il a vraiment besoin de savoir qu'il s'appelle John Doe, Jean-Pierre ou Tartampion? Pour moi, non. Et je rappelle que dans le cas des crypto-monnaies, ce n'est pas le cas non plus. Il n'y a pas de KYC. Les transactions, elles sont authentifiées uniquement par signature numérique. Donc, évidemment, il existe d'autres initiatives un petit peu plus ambitieuses, comme par exemple le réseau Fathom, là aussi le lien sera dans le blog. Et là, le but, c'est carrément d'intégrer aussi la validation des compétences dans un mécanisme qui sera vraiment décentralisé et du coup anonyme. Alors je dis que c'est ambitieux parce que si vous allez voir ce système, vous allez voir que leur white paper est assez avancé, assez optimiste sur pas mal d'hypothèses. Mais en tout cas, ça a le mérite d'exister et d'aller beaucoup plus loin et pour moi beaucoup plus au bout que ce qu'essaye de faire 0xCert ou BlockCerts. Et bien sûr, en plus, ça répond à une autre problématique, qui est celle de l'éducation non institutionnelle, comme celle, par exemple, des cours en ligne que nous, on propose avec Chain Skills, puisque là, il n'y a pas une institution derrière qui délivre un diplôme. C'est juste que on a des étudiants qui suivent nos cours et qui aimeraient pouvoir prouver qu'ils ont compris ce dont on parlait à de potentiels employeurs qui auraient besoin de ce genre de compétences. Évidemment, vous vous en doutez, si j'en parle, c'est que c'est une problématique sur laquelle on travaille avec Chain Skills. On réfléchit justement à un système comme ça de certification décentralisée. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de garder un œil sur le blog de Chain Skills, sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter et tout ça pour suivre nos actualités. Et vous pouvez être sûr qu'évidemment, quand on aura quelque chose de prêt, on en parlera dans le Proof of Cast. Voilà qui termine notre couverture des actualités intéressantes de ces deux dernières semaines dans ce monde merveilleux de la blockchain et des crypto-monnaies. Je vais terminer comme à l'habitude avec quelques infos, quelques news concernant les événements à venir. Pour ceux qui sont à Bruxelles et qui voudraient en savoir un petit peu plus ou discuter tout simplement avec moi, puisque je serai présentateur lors d'une conférence Next Tech qui aura lieu au coworking M Village à Bruxelles la semaine prochaine. Et si mes souvenirs sont bon, ce sera lundi prochain. Est-ce que c'est possible? Non, ce sera mardi prochain, donc le 12 juin. Si vous écoutez ce podcast avant le 12 juin, il est encore temps de vous inscrire. Tous les liens sont évidemment dans le blog post. Je rappelle au passage, comme je le disais, qu'on a un cours sur Udemy. Donc si vous êtes développeur et que ça vous intéresse d'aller plus loin dans la compréhension de la blockchain, dans l'utilisation de la blockchain pour développer des applications décentralisées, on a ce cours sur Udemy qu'on met à disposition de vous avec un coupon plein d'amour et de gratitude qui s'appelle Proof of Cast et qui vous permet de bénéficier de ce cours pour la modique somme de 10 euros. C'est-il pas magnifique ça, hein, franchement? Alors le lien, encore une fois, est dans le blog post. À ce sujet, on est en train de préparer aussi un cours pour les non-développeurs, pour ceux qui s'intéresseraient à la blockchain, qui voudraient mieux la comprendre, mais sans être pour autant avoir des vérités de programmation. Et à ce titre, on aimerait tester du contenu qu'on a déjà produit finalement pour le cours développeur et voir s'il serait aussi adapté à des non-développeurs. Donc si vous n'êtes pas développeur et que vous vous intéressez à la blockchain, on cherche toujours quelques volontaires pour nous aider à évaluer ce contenu et à nous dire si c'est compréhensible ou pas. Et en échange, on vous donne gratuitement accès à ce cours en ligne, pour autant que évidemment vous nous donniez du feedback. Et pour ça, il suffit de m'envoyer un petit email à l'adresse indiquée dans le blog post associé à cet épisode. Voilà qui termine les actualités pour l'instant. Pas de nouvelles de la DEFCON, hein, pour ceux qui se demandent encore. On a toujours les dates, mais on n'a toujours pas la disponibilité des tickets. Donc, on vous tiendra au courant aussi quand ça sera disponible. Pour le reste, le prochain épisode du Proof of Cast sera publié le 23 juin prochain. Et normalement, d'ici là, je serai en direct du Japon, d'Osaka. Donc, on enregistrera ça d'une manière un petit peu différente. Vous en saurez plus d'ici là. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le blog ou sur la page Facebook ou sur le Twitter ou par Pigeon Voyageur ou tout ça. Et bien entendu, vos reviews, vos étoiles, vos commentaires sont bienvenus aussi sur les plateformes de podcast comme iTunes, comme Stitcher, comme TuneIn et tant d'autres. Ça nous aide à être mieux référencés et donc à diffuser plus largement la bonne nouvelle de la blockchain et du Proof of Cast. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt pour un prochain épisode du Proof of Cast. Au revoir.